Oui, et après vous avoir conté l'histoire de la libération des ondes et de la fin du monopole de l'État, il est grand temps de s'intéresser à la remise en ordre dans un monde radiophonique complètement chaotique. Il devient nécessaire de mettre en place une autorité afin de répartir les fréquences de manière équitable.
Agora Côte d'Azur. Reportage.
Le 21 janvier 1982, Georges Filloux, ministre de la Communication, crée la Commission consultative des radios privées locales. De cette manière, il affirme la position du gouvernement et sa volonté de faire respecter la loi sur les radios privées. Il présente la loi Filloux qui déclare, je cite, « que la communication audiovisuelle est libre ». Au cours de la création de cette commission, il évoque le problème du financement mais également celui de l'encombrement des fréquences. La commission est composée de 21 membres et est chargée de donner son avis à propos du renouvellement, refus ou révocation des futures autorisations qui concernent les radios privées locales en devenir. Parmi ses membres, aucun représentant du ministère de la Culture n'est recensé, ce qui a fortement déplu à Jacques Lang.
Monsieur le ministre, pour certains, le projet de loi sur les radios locales privées va trop loin. Pour d'autres, il ne va pas assez loin. Vous restreignez les radios locales, alors il est un peu difficile de s'y retrouver.
Archives de l'INA.
Moi, je suis en train de présenter au nom du gouvernement de la gauche un projet de loi qui vise à ouvrir une liberté qui jusqu'ici était interdite en faveur des petites stations de radio privées locales. Voilà. À partir du moment où une liberté publique est en cause, c'est au législateur de se prononcer et c'est également à lui de fixer les limites de son exercice. Bien.
Quelle sera la place de la publicité dans ces radios ?
La question n'est pas encore tranchée. L'avis du Parlement à cet égard est précieux. Et le problème se pose entre pas de publicité du tout ou bien une publicité réglementée dans des conditions précises et avec moyens de contrôle.
Plusieurs opérations dites de débroussaillage ou de débrouillage des ondes ont été mises en place alors même que les dossiers de demande de création de nouvelles radios augmentaient de jour en jour. Le 29 juillet 82, une loi crée la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Cette dernière est, je cite, « chargée de garantir l'indépendance du service public de la radiodiffusion sonore et de délivrer les autorisations en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ». Pour résumer, c'est donc elle qui attribue les fréquences des radios privées naissantes. En 83, elle décide de l'interdiction de certaines radios libres jugées, je cite, « d'inspiration plus ou moins libertaire ». C'est le cas de Radio Carbone ou Radio Mouvance. Beaucoup de stations indépendantes historiques disparaissent. Les radios qui restent entrent rapidement dans une logique commerciale concurrentielle.
Eh bien, la première loi Filloux, justement, elle n'instituait pas une liberté totale d'utilisation de l'espace hertzien. Cette loi décidait qu'il y avait dorénavant la possibilité, l'État pouvait accorder ce qu'ils appelaient des dérogations au monopole.
Gilbert Andrucioli, vice-président de la radio Agora Côte d'Azur.
D'une part, après l'élection de Mitterrand, les poursuites pénales contre les radios pirates ont cessé. Et la première loi Filloux ouvrait donc la possibilité de dérogation au monopole uniquement à des associations. Il ne pouvait exister que des radios associatives. Ces radios associatives, il leur était formellement interdit de diffuser de la publicité. Alors évidemment, ça n'était pas l'objectif de la plupart de ceux qui avaient milité pour mettre fin au monopole. Au contraire, les plus malins d'entre eux utilisaient les mouvements libertaires qui militaient pour la liberté d'expression. Eux, en fait, ils voulaient la liberté du commerce sur les ondes hertziennes.
La radio devient un véritable marché commercial qui se doit d'entrer dans un cadre légal strict. La Haute Autorité établit un cahier des charges des programmes afin de garantir la diversité de contenus, des critères de qualité, le respect des normes techniques liées aux récepteurs, ainsi qu'une délimitation stricte des zones de couverture et de puissance, histoire de ne pas brouiller les radios voisines. Mais ces attributions sont difficiles à faire respecter et il reste des abus. Pour l'anecdote, en 84, la radio Énergie est suspendue car elle n'occupe pas la fréquence attribuée et équipée d'un émetteur surpuissant qui brouille les radios voisines. Une manifestation a été organisée à même la station à Paris afin d'empêcher sa fermeture.
Donc, cette première loi Filloux a permis la création, je crois qu'il y avait eu 2000 dérogations accordées en France. Mais très très vite, la pression s'est accentuée de la part des commerciaux que la situation ne satisfaisait évidemment pas. Ça n'était pas non plus ce que voulait le Parti socialiste. Une seconde loi Filiou a modifié la première, disant que dorénavant, les autorisations pouvaient être accordées, toujours bien sûr à des associations, toujours, mais de plus, aux SARL, aux sociétés anonymes, etc., etc. Et, bien entendu, pour obtenir une aide de l'État, il fallait rester sous la forme associative, renoncer à la publicité toujours, mais les autres étaient totalement libres de diffuser de la publicité sur les ondes et se trouvaient régis directement par la réglementation des commerciaux.